On lui parle à tous les jeudis à 13h20. Il est avec nous et vous l'appréciez. Vous êtes nombreux à chaque semaine à nous inonder de messages lors de sa présence. David Etégui. David, comment ça va?
Salut, David.
Comment ça va, les amis?
Très bien. David, et toi?
Oui, excellent.
David, il faut qu'on te parle de cette séquence du Canadien 13-3-1 à ses 17 derniers matchs. Écoute, à chaque semaine, on te repose la question parce que la séquence se continue. À quel point t'es surpris?
Je suis très surpris comme tout le monde. Je peux pas imaginer que quelqu'un à Montréal va dire qu'il s'attendait à voir les Canadiens avoir une saison comme ils sont en train de faire maintenant. Mais c'est surpris, c'est un ensemble de surprises, Georges. Je suis surpris de Hudson, je suis surpris de Caulfield, je suis surpris de Carrier, je suis surpris de Laine, je suis surpris de plein de choses. Et ce qui fait en sorte que les Canadiens, ils se retrouvent où ils sont maintenant. Et j'avoue que je les voyais dans un mix. Un mix pas tout à fait dans les séries. Mix genre à 4-5 points, 6 points des séries, du meilleur deuxième, plutôt du wild card. Okay? Mais je les voyais pas être où ils sont maintenant. Donc là, ce que je me dis, c'est que tant mieux. C'est le fun qu'ils sont sur une superbe lancée. Donc je pense que les gens de Montréal... On est en train de voir vraiment la lumière au bout du tunnel et je pense que les Canadiens s'en vont vraiment dans la bonne direction. Il faut que ça continue.
David, très curieux de t'entendre là-dessus. On en a parlé cette semaine avec Georges. On en a parlé aussi, on a discuté avec certains collabos. Si le Canadien est encore en position de lutte pour une place en série rendue à la date limite, est-ce que tu les vois être acheteurs, oui ou non? Et sinon, vers quel type de joueurs, selon les besoins, tu penses qu'ils peuvent se tourner?
Ben moi, je pense que c'est clair que dans la position ici aujourd'hui, on est à une journée de la date limite des transactions, on est dans le portrait qu'on a à l'heure actuelle. Les Canadiens doivent être acheteurs. Ils doivent être acheteurs. Et sauf que j'ai eu beaucoup d'amateurs avec qui j'ai parlé dans les dernières deux semaines, un mois, qui m'ont écrit un peu sur toutes les plateformes, qui me disent oui, mais là on peut pas sacrifier l'avenir. Can you changera pas ses plans. Les gens doivent comprendre deux choses. Les Canadiens ne vont pas changer les plans. Sauf que les plans des Canadiens, c'est plus que les gens ont dans leur tête. Et je m'explique. Les Canadiens, à l'heure actuelle, ce qui est important pour eux, c'est de ne pas toucher le noyau de jeunes talents qu'ils ont déjà en place. Ça ne veut pas dire qu'ils ne toucheront pas à des choix au repêchage. Ça ne veut pas dire qu'ils n'échangeront pas un choix de deuxième ronde, un choix de troisième ronde, un choix de quatrième ronde, peut-être un choix de première ronde éloigné, si c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça ne veut pas dire que les Canadiens ne feront pas ça. Toucher le noyau, non. Toucher les prospects, non. Mais donner un choix au repêchage, ce n'est pas ça qui manque aux Canadiens. Ils en ont des tonnes. Donc, c'est clair et net qu'ils ont ce qu'il faut pour aller chercher un joueur intéressant, mais ça ne peut pas être un joueur avec qui ils vont être attachés longtemps. Pourquoi? Le vrai besoin des Canadiens de Montréal, à mon avis, à l'heure actuelle, c'est un ailier sur un top 6, sur un deuxième trio. Parce que Newhook, malgré qu'il y a eu quelques buts dans les dernières parties, c'est pas un gars de deuxième trio. Et ni Josh Anderson, ni Brendan Gallagher, c'est pas des gars de ni Armia, c'est pas des gars de deuxième trio. Ils ont besoin d'aller chercher un gars à l'aile, préférablement du côté gauche, qui est capable de marquer des buts, qui a de l'expérience, qui est capable de... et qui est UFA. Donc, on ne va pas garder à la fin des séries, qui va faire son bout. Et l'année prochaine, les amis, on a Demidov qui arrive. Donc, il y a plusieurs joueurs intéressants. Je pense vite fait comme ça à Buffalo, qui ne feront pas les séries. Un gars comme Jason Zucker, exemple. Ça peut faire le travail. Un gars qui tombe UFA, il y a une saison de 35 points, il va finir à venir 20-25 buts cette saison, il a joué une soixantaine de parties dans les séries, il n'est pas trop... il est capable. C'est le genre de gars que tu peux avoir pour pas trop cher, un choix de deuxième ronde, une affaire du genre, qui va pas amputer les Canadiens, qui va s'intégrer dans un top 6, l'expérience, et qui va aider aux jeunes Canadiens à faire une ronde. Si les Canadiens font une ronde cette année, ça sera plus que mission accomplie pour le développement des jeunes.
David, Josh Anderson, là, on sait comment s'intéresser des équipes. C'est quoi sa valeur sur le marché, selon toi, si le Canadien le mettait disponible à la date limite de transaction? On sait qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas qu'il parte parce que si le Canadien se bat en série, c'est largement grâce à lui. Puis s'il s'en va, tu peux pratiquement dire bye-bye, mais les équipes vont être agressives. Pourquoi tu le laisserais aller?
Moi, premièrement, je ne le laisserai pas aller si je suis dans le portrait. S'ils sont dans le portrait, Georges, il va nulle part. Il ne bouge pas, ce gars-là. Ils ont besoin de lui dans les séries. C'est un gars de série. Les jeunes doivent apprendre à gagner dans les séries. Donc, s'ils sont dans le portrait, il va nulle part.
Ça, on est d'accord. On est d'accord.
OK, on est d'accord. Maintenant, j'ai des réserves sur sa valeur et je m'explique. Si vous vous souvenez, il y a 3 ans ou 2 ans et demi, on parlait de ça. Je vous l'avais dit en onde. Les amis, il faut prendre l'opportunité de changer Josh Anderson là. Ils voient un choix de première ronde, ils voient un super bon prospect. C'est le moment. Ils l'ont pas fait. Ça a été une année catastrophique après. On ne pouvait plus le bouger. Là, cette année, ça va un peu mieux. Mais il n'y a que 18 points. Les amis, ça ne va pas vers une saison de 80 points, ce gars-là. C'est un gars qui va être en location pour des playoffs. Un gars qui peut bien jouer dans les séries. C'est ça, Josh Anderson. Donc, ça, c'est un. Deuxièmement, son contrat de 5,5 millions, il est encore bon pour 2 ans. Et son salaire, je m'excuse, il ne vaut pas près de 6 millions par année, Josh Anderson, pour les 2 prochaines années. Donc, il faudrait que les Canadiens ils donnent au minimum un 2 millions, qu'ils gardent un 2 millions sur leur masse pour pouvoir le rendre intéressant à genre 3,5 millions. Et même là, qu'est-ce qu'ils vont avoir en retour? Ils n'auront pas un choix de premier ronde, ça je vous le dis. Est-ce que ça va être un choix de deuxième ronde? Est-ce que ça va être un prospect B? Est-ce que ça vaut vraiment la peine pour les Canadiens? Donc, je pense que dans le meilleur des scénarios, je souhaite aux Canadiens d'être proches des séries, de faire les séries, de garder Josh Anderson, de faire en sorte qu'il est capable d'amener les jeunes à un autre niveau et de continuer à performer. Parce qu'à l'âge qu'il a, 30 ans, même s'il coûte 5,5, si l'équipe elle est en progression l'année prochaine, on rentre un demi-dog, on rajoute d'autres jeunes joueurs, et là, l'équipe s'améliore dans les séries, c'est pas grave d'avoir un 5,5 millions et Josh Anderson sur un troisième trio à Montréal pendant les séries. Donc, on peut vivre avec pendant 2 ans.
OK. Jason d'un autre qui fait beaucoup parler dernièrement, Yoel Armia. Même chose pour lui. On va te poser la question, est-ce que le Canadien va le garder à la date limite? Pourtant, tout le monde l'envoyait, puis il y en a beaucoup qui se proposaient d'aller même le porter à l'aéroport. Moi y compris, il y a quelques mois. Sinon, si t'es le Canadien de Montréal, d'un, est-ce que tu le gardes? Et sinon, est-ce que tu le re-signes par la suite? Et c'est là où ça devient intéressant, David, parce qu'on sait les moments d'hibernation de Yoel Armia. Pour toi, combien Armia peut regarder comme contrat? Combien d'argent et combien d'années pour le prochain?
Donc, je vous explique. Premièrement, Yoel Armia, c'est un ancien client de notre firme. OK, donc je connais Armia. On a travaillé avec lui pendant des années. Sauf que Yoel Armia, comme tu l'as si bien expliqué, Stéphane, c'est en dents de scie. Ça monte, ça descend. À un moment donné, on l'a renvoyé dans la Ligue américaine. C'était le pire des scénarios pour lui. Là, il est revenu. Il a vu un psychologue sportif. Ça a été mieux. Là, il a recommencé à produire. Il s'est trouvé une spécialité. Il est bon au niveau défensif. Avant, on le voyait, on avait tout un potentiel. On se disait, ce gars-là, nous, quand on l'avait dans notre film, on dit, ce gars-là, 6 pieds 3, 6 pieds 4, il est capable. Ça va être un marqueur. C'est un gars qui peut jouer. Ça peut être une étoile dans la Ligue nationale. Mais là, on a revu les standards. C'est rendu un joueur défensif de 3e, 4e trio de luxe, admettons. Le seul problème, c'est que lui est à 3,6 millions. Le dernier contrat qu'on lui avait signé dans le temps, c'était à 2,6. Je parle de ça avant. À 3,6 millions, je vais vous expliquer. Ce qui va arriver, c'est que quand il va devenir UFA, c'est sûr qu'il y a une équipe dans la Ligue nationale qui va lui redonner son salaire. C'est sûr. S'il continue à bien terminer sa saison, c'est sûr qu'il y a une équipe qui va vouloir lui donner ça. Se dire, bon, ce gars-là, on va lui donner un rôle, ça va être un troisième trio, puis ça va être ça, un gars de 20 points, 25 points maximum. Mais les Canadiens, où on en est aujourd'hui, tu ne peux pas le re-signer. Maintenant, si tu veux le re-signer, parce que tu penses que tes joueurs sont pas prêts pour venir de la Ligue américaine, ben là, tu lui offres un 2 ans, 5 millions. C'est 2,5, 2,6 par année maximum. Tu lui redonnes pas 7 millions 2 ans. Impossible.
Non.
OK, donc, mais il va l'avoir ailleurs, ça. Donc, moi, je pense qu'il est là. Si l'équipe est encore, comme je le dis, je le répète, en position pour faire les séries, tu le gardes parce que tu veux montrer aux jeunes à gagner en série. Et si jamais ça marche, ben le 1er juillet, il s'en ira ailleurs, puis ça sera un autre joueur qui viendra le remplacer. Il y a des Joshua Roy, on a plein de joueurs qui doivent éventuellement prendre même un rôle plus grand que le sien. Donc je pense qu'à un moment donné, il va falloir passer à autre chose. On le connaît bien, Yoel Armia à Montréal.
Ouais, on le connaît très bien, tu le connais très bien. Puis sur la 4, on en parlait cette semaine également. Tu sais, on a du Luke Tuck, on a du... Du
ben
Jack
oui.
High, on a du Jared Davidson, il y en a plein des gars aussi qui vont pousser aussi.
David, question qu'on se demandait tantôt par rapport au classement. Quand tu regardes tout ce qui se passe, puis tu vois ce qui se passe avec les Bruins, ce qui se passe avec les Sens, qui entre les Canadiens, les Sens et les Bruins a le plus de chances de faire les séries selon toi?
Ben, selon moi, c'est les Canadiens de Montréal. Et je m'explique. Je dis pas ça parce qu'on est à Montréal. Et je sais qu'on a des auditeurs à Ottawa aussi, puis c'est une équipe de les sénateurs, c'est, ça, ça va quand même bien cette année. Pour moi, Boston, ils sont hors du portrait. Les amis, Boston, je sais qu'on a beaucoup d'auditeurs aussi qui sont fans des Bruins de Boston. Les amis, c'est terminé, Boston, c'est fini. Ça s'en va dans le sens en bas. Et vous allez pouvoir faire dire ce que vous voulez, puis c'est terminé. Là, ça va continuer à descendre. Ils vont avoir des regains de vie des fois, puis ils vont redescendre, ils vont monter, ils vont redescendre. Puis éventuellement, l'année prochaine, ça va être encore pire, et eux, ils risquent d'être dans les bottom 5 dans l'année prochaine. Mais je pense que Boston, c'est fini. Maintenant, pourquoi je favorise les Canadiens, c'est simple. Premièrement, les Canadiens sont sur une lancée. Donc, et c'est une lancée irrésistible. On voit que c'est positif, c'est bon. Et ça traîne. T'as un autre, t'as 10, 15 matchs qui devraient continuer comme ça. Donc, les Canadiens, ça va dans la bonne direction. Pas que ça a été mal à Ottawa. Ottawa, ils sont des super belles parties. Mais sauf que c'est moins stable dernièrement que les Canadiens. Deuxièmement, Ullmark est blessé. Ça a été, c'est incertain. On n'a pas la même certitude au niveau de l'alignement que ce que les Canadiens ont à l'heure actuelle. Et la profondeur est meilleure chez les Canadiens à l'heure actuelle. Donc, je pense que les Canadiens sont sur une lancée. On est tous à peu près au même point. Je pense que les Canadiens ont une longueur d'avance. Ça ne veut pas dire que les sénateurs ne pourront pas finir en avant. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, pour moi, c'est les Canadiens qui ont le edge par rapport à cette course-là.
David, cette semaine, on a beaucoup parlé des équipes étoiles du CH des 25 dernières années. On a fait les nôtres également en début de semaine. Faisons l'exercice ensemble. C'est quoi la tienne?
Ben, les 25 dernières années, c'est pas de surprise, Carey Price, gardien de but.
Ouais.
La défensive, c'est André Markov et Shea Weber. J'ai pas le choix. À l'attaque, Saku Koivu, Alex Kovalev et Max Pacioretty à l'aile.
Alors, Pacioretty, là, dans l'équipe qui a été nommée en fin de semaine, c'était Plekanec qui était là.
Ah, OK. Je l'ai pas vu, mais je peux vous dire comme quoi, la seule chose que je peux vous dire, je regarde ça, là, les amis, là, et je me dis, comment est-ce qu'on a souffert à Montréal dans les 25 dernières années?
Merci, David. J'avais un débat avec Georges en début de semaine.
Puis je regarde ça, puis je me dis, c'est la pire équipe de 25 ans de l'histoire des Canadiens de Montréal. Si je prends la tranche 75 à l'an 2000, 1950 à 1975, 1925, même avec ça dans ce temps-là, avec tous les joueurs qu'il y avait, les Joliettes, tout ça même avant, c'est la pire équipe. Comme on compose une équipe où il n'y a même pas un marqueur de 50 buts. Le meilleur attaquant, je pense qu'il y a eu un peu au-dessus d'un point par match, c'était Kovalev une saison. Pacioretty n'a jamais fait 40 buts. Il n'y a rien, il n'y a pas de Norris dans ces deux-là que je viens de nommer. Donc, il y a Carey Price, oui, mais on a eu Patrick Roy, on a eu Ken Dryden, on a eu Jacques Plante. Donc, en réalité, c'est l'équipe, mais pour moi, c'est... En tout cas, on a des meilleures années à venir. Les 25 prochaines vont être beaucoup bien meilleures que celle-ci.
David, quand tu regardes ce qui se passe dans la Ligue nationale cette année, quelle équipe, selon toi, cette saison, qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il soit décevante, va l'être et va même être vendeur à la date limite?
Ben, moi, je nomme trois équipes vite fait, j'ai pas le choix. C'est Nashville, la plus décevante, on est d'accord. Pittsburgh, elle est hyper décevante. On a été chercher, il y a une couple d'années, Carlson. On n'arrête pas d'injecter des vétérans. Ça marche pas. Et Buffalo, qu'on voyait monter, et là, soudainement, ils sont comme troisième dernier. Donc, il y a trois équipes qui vont devoir faire des changements. Le problème, c'est que Nashville et Pittsburgh sont menottés parce que leurs plus gros contrats ne sont pas bougeables. Donc, moi, ce que vous pouvez vous attendre, à mon avis, c'est que, bon, à Nashville, on va bouger O'Reilly, on va bouger Nyquist. Je pense qu'à Buffalo, je vous parlais de Zucker qui est intéressant et possiblement Peyton Krebs, si on peut s'en débarrasser, malgré qu'il n'y ait pas un gros salaire. Du côté de Pittsburgh, Michael Bunting, surtout Kevin Hayes, si on est capable de s'en départir, et le temps où Carlson, si par miracle, il y a une équipe qui est capable de travailler quelque chose pour être capable de sortir un de ces gars de là-bas, parce qu'ils sont tellement mal pris. Ah. Pittsburgh et Nashville, c'est horrible. Mais je pense que Pittsburgh, c'est pire que Nashville à l'heure actuelle.
Oui, puis tu as parlé de Boston, qu'on pourrait inclure également dans cette liste-là. On les verra à la date limite des transactions. David, celle-là est le fun. Pour vrai, on en a parlé un peu, mais si le Canadien, les Caps et les Blue Jackets font les séries, qui va remporter le Jack Adams, à ton avis?
C'est Spencer Carberry. Pas le choix.
Plus que Saint-Louis et Everson?
Oui. Mais premier au classement général, Stéphane. 69 points, là. L'année dernière, ils ont fait les séries par erreur, si tu te rappelles.
Oh oui.
Parce que Philadelphie n'avait pas joué le match. C'est une équipe qui était en pente descendante. Ils n'ont même pas des grands prospects au niveau des jeunes qui montent. OK? Ils n'en ont pas. Donc, on se retrouve là. Et là, soudainement, premier du classement général, défensive solide, attaque solide. Et il ne faut pas oublier que ce gars-là, il vient, c'est pas un coach qui a beaucoup d'expérience. Il vient, il arrive depuis un an et demi. Et depuis qu'il est arrivé en 2023, ce gars-là, il a fait une différence. Mais si j'avais à donner un deuxième, encore là, ça serait pas Martin Saint-Louis. Je mettrais Martin Saint-Louis troisième. Pourquoi? Parce que Dean Evason le mérite encore plus. Parce qu'à mon humble avis, je peux pas imaginer que nos auditeurs avoueraient que les Blue Jackets ont une meilleure formation que les Canadiens de Montréal. Quand je regarde la formation des Blue Jackets, il y a des morceaux intéressants, mais je pense que dans l'ensemble, les Canadiens de Montréal, à l'heure actuelle, ils ont une meilleure formation que les Blue Jackets. Donc, je pense que de un. Deuxièmement, Dean Evason vient d'arriver là. Il est arrivé cette année. Tandis que Martin Saint-Louis, ça fait 3 ans qu'il est dans l'équipe. Il a eu le temps d'apprendre les joueurs. Il a eu le temps de s'améliorer. Tandis que l'autre, il vient de nulle part et il amène son équipe dans les séries. Donc, t'as pas le choix de lui donner à lui si t'as à choisir entre les deux. Et il y a, à mon avis, une moins bonne équipe que les Canadiens de Montréal sous la main.
Ouais, surtout avec tout ce qui est arrivé.
Ben oui. Sauf que je me dis, c'est sûr que ce que les Caps sont en train de faire, s'ils terminent premier au classement général, je ne peux pas imaginer qu'ils vont donner un gars qui rentre de justesse 8e dans les séries. Je ne peux pas imaginer.
D'ailleurs, David, il y a beaucoup de gens qui textent, qui disent en ce moment, puis je veux juste le rappeler aux gens, c'est toi qui avais prédit, ben pas prédit, qui avait eu des infos que Patrick Laine s'en venait à Montréal, ça avait été démenti par plusieurs membres des médias. C'est toi qui avais eu les infos que Josh Anderson s'en venait à Montréal, qui avait été démenti par plusieurs personnes, c'est arrivé. C'est qui ta connexion à Columbus?
Non, j'ai une connexion à Columbus, tu le sais, genre je te l'avais dit.
Ouais.
Quand je le savais avant la transaction qu'elle arrive, je vous l'avais dit, les gens du 91-9 dans le temps, Stéphane René, ainsi de suite, étaient au téléphone avec moi avant que la transaction se fasse. Donc, c'est sûr et certain que on a des gens un peu partout, mais la plupart. Puis il y a des fois des informations, les amis, au fur et à mesure que les années ont passé, qui étaient excellentes, que je vous ai données précises. Sauf que ça arrive des fois que des transactions tombent à l'eau, que des joueurs décident d'aller ailleurs à la fin. Ça arrive.
Ouais.
Puis là, soudainement, on dit, ben là, ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Non, ça pouvait être vrai.
Merci, David.
Ouais, on va falloir se reparler de Subban. Il y a beaucoup de gens qui voulaient que tu mettes Subban avant Weber.
Non, mais David, t'aurais dû mettre Subban avant Weber. C'est quoi cette affaire-là? On parle de joueurs. Non, mais David, regarde les années que Weber a joué à Montréal versus celle de Subban. Arrête de niaiser.
On est tellement loin de Larry Robinson, Serge Savard et Guy Lafoyette.
Non, ça n'a pas de sens.
C'est pas ça la question. Weber, Subban, David, qui a donné les meilleures années aux Canadiens? Weber, Subban?
Non, mais je te relance ça. Si je mets sur un trio, si je mets un duo défensif, Markov avec Weber ensemble dans des bonnes années, ça aurait été débile. Beaucoup plus qu'avec Piquet-Souban.
Oui, mais dans les bonnes années de Weber, oui, mais Weber, il n'est pas arrivé dans ses bonnes années, non. Il est arrivé en fin de carrière.
Oui, mais attends, là. Weber a amené les Canadiens en finale de la Coupe Stanley, ce que Piquet-Souban n'a pas fait. Et je veux pas réduire Piquet-Souban, parce que la réalité, c'est que c'est la faute à Marc Bergevin si Piquet et Curry n'ont pas gagné une Coupe ou ils n'ont pas été en finale, parce qu'il n'a jamais été capable de trouver de l'offensive pour amener cette équipe à un autre niveau.
Ah ouais, mais c'est vrai. Ouais, t'as l'argument de la finale de la Coupe Stanley, puis Subban a l'argument du Norris.
Chez Weber, avec un demi-corps, et Carey Price avec un demi-corps, ils ont amené les Canadiens en finale de la Coupe Stanley. Ça, les amis, je pense que les gens ne réalisent pas. Puis moi, je l'avais, cette information, parce que c'est une autre affaire que j'avais collée avec vous, les amis. J'avais dit, les Canadiens vont aller en finale de la Coupe Stanley.
C'était
trop sur RDS.
C'est
partout. Je l'avais dit sur l'antichambre. Je l'avais dit partout.
C'est vrai.
Mais c'était
vrai.
Pourquoi? Parce que j'avais de l'information. Les gars dans la chambre me parlaient. On avait une équipe spéciale. On a dit, c'est maintenant ou jamais. Eric Stall. C'était là. Carey a dit, je donne ma vie. Weber a dit, je donne ma vie pour arriver, pour gagner cette année. Je le savais.
Ouais.
Mais ça, c'était pas suffisant parce que cette année-là, le Lightning était juste trop fort en finale.
Merci, David.
Merci beaucoup. On surveillera la lutte pour le Jack Adams.
Merci, David. À bientôt. David.